toutes et à tous et bienvenue, soyez les bienvenus sur Europe 1. Pas encore l'aube, déjà le matin d'une nouvelle semaine de confinement aujourd'hui. Voilà une semaine que vous devez vous adapter. Tous, toutes, quel que soit votre âge, votre métier, votre situation familiale, géographique, s'adapter. C'est ce qui nous a inspiré. La radio ouverte, le monde qui se ferme, qui se confine et votre radio qui reste ouverte. Soyez les bienvenus sur Europe 1. C'est parti pour 3 heures d'info, 3 heures de direct. L'actualité et ses à côté avec toujours cette situation incroyable et ses avancées quotidiennes, ses débats politiques, scientifiques, économiques, être prêt à affronter la vague. Voilà le mot d'ordre dans le système de santé français. Les médecins en sont persuadés, ils le savent, ils le sentent, les effets les plus dévastateurs du coronavirus seront là dans les prochaines heures, les prochains jours. Alors, c'est une question simple et en même temps la réponse est complexe. Comment est-ce qu'on se prépare au pic de l'épidémie qui est encore devant nous? Nos reportages réalisés en télétravail toujours, nos invités ce matin à distance, mais toujours en direct. Et vous, vous en particulier, les soignants, les blouses blanches, médecins, mais évidemment pas seulement, dites-le nous, ce que vous vivez, ce que vous attendez des autorités, des Français aussi. Partagez vos craintes peut-être, 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Sur Europe 1 ce matin, le ministre en charge de la ville et du logement, Julien de Normandie, vient détailler un dispositif de solidarité pour héberger justement les soignants, les associatifs, les personnels d'EHPAD. Ne les oublions pas, c'est à 7h40, tout à l'heure vous serez à l'écoute, j'en suis sûr. Mais précisément vous, vous êtes peut-être dans une situation personnelle, familiale, économique, même une situation complexe à cause de cette guerre contre le coronavirus. Vous vous êtes engagé. Eh bien, je vous attends. J'attends vos témoignages au 39-21. 8h15, le professeur Axel Kahn au micro de Sonia Mabrouk, généticien, président de la Ligue contre le cancer, humaniste, essayiste aussi, de la hauteur un peu ce matin, et Axel Kahn qui répondra à vos questions et qui écoutera vos témoignages entre 8h30 et 8h45 ce matin. Je rappelle quelques éléments, c'est tous les jours, mais ça va mieux en le disant. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, vous venez d'entendre la rediff de son rendez-vous. Jimmy Mohamed, à 7h tout à l'heure pour répondre à vos questions. Et il y en a beaucoup, des questions de santé, des questions scientifique, vous vous inscrivez au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Laurent Cabrol à 5h59. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Comment ça va Laurent ce matin?
Écoutez, une inquiétude, je vais dire, est-ce que nous vivons, c'est peu de choses, mais enfin, une inquiétude en ce qui concerne les gelées qui se cumulent depuis maintenant 2 jours. Nous avons du moins 4 dans la Nièvre en ce moment, du moins 3 à Mulhouse et Langres, moins 2 à Orléans, Besançon et Dijon, moins 1 à Nancy et Strasbourg, 0 en banlieue parisienne et à Clermont-Ferrand. Pourquoi inquiétude? Parce que la végétation est en avance, bien sûr, et tout ceci peut avoir des conséquences. 2 degrés à Bourges, 3 à Paris à l'heure actuelle, 4 à Lyon, 6 à Nantes, 8 à Brest, 9 à Toulouse, 10 à Nice et 12 degrés à Montpellier. Hormis les gelées, bien nous avons un ciel dégagé comme hier, pratiquement partout, avec une poche de temps un peu plus nuageuse, avec même parfois quelques ondées, peut-être même de neige à partir de 800 mètres, sur le sud-est, c'est-à-dire la Provence, les Alpes, la Côte d'Azur, il y a pas mal de vent, mais j'en parlerai tout à l'heure, des averses de neige donc sur les Alpes de Haute-Provence, et puis pas mal de nuages, mais c'est rien sur la basse vallée du Rhône, sur le Languedoc-Roussillon. Enfin, allez, l'essentiel, c'est le soleil pour 80% des Français.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol. Hélène Zélani avec nous, bonjour Hélène.
Fidèle au poste, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 6h.
Nous voulons préciser les règles de façon, là encore, à les rendre plus strictes. Ce sont des règles qui ont vocation à protéger les plus fragiles de nos concitoyens.
De nouvelles règles pour durcir le confinement annoncé par Édouard Philippe, à plus d'une heure de sport ou de balade avec les enfants. Comment savoir si on est vraiment atteint du Covid-19? Vous êtes évidemment très nombreux à vous poser la question. Un site internet conçu par un médecin vous donne des réponses. Faute de repreneurs, l'usine qui fabrique la Nivaquine, médicament contenant la fameuse chloroquine, va fermer. Les salariés en appellent à l'État.
Un appel au pouvoir public, je pense que l'État pourrait porter en fait l'acquéreur ou alors faire en sorte qu'effectivement un projet de reprise puisse être enregistré.
Pour les jeunes, avec le confinement, la tentation est grande de passer encore plus de temps sur les jeux vidéo. Pas facile à gérer pour les parents, nous appellerons le psychologue Michael Stora. Et puis lentement mais sûrement, on s'achemine vers un report des Jeux de Tokyo prévus cet été. La plupart des athlètes français préféreraient dans un an.
Quitte à le reporter à l'été juillet 2021, ça restera les Jeux d'été, même si c'est décalé d'un an. J'ai hâte qu'il nous donne une date.
Et à 6h40, votre invité Mathieu.
Un plateau autour de vos préoccupations. Nous serons en direct avec Benoît Serre, qui est vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, et Jean-Claude Delgène, président du cabinet Technologia, cabinet de prévention des risques professionnels, télétravail, congés, toutes ces problématiques de chômage partiel aussi. C'est à 6h40 tout à l'heure. Excellent réveil à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Si vous vous sentez un peu seul, confiné chez vous, sachez que ce matin, plus d'1,8 milliard personnes dans le monde vivent la même chose. Ici en France, les mesures sont désormais plus sévères. Écoutez les annonces d'Edouard Philippe, c'était hier soir dans le journal de 20h de TF1.
Nous voulons préciser les règles de façon, là encore, à les rendre plus strictes. Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour une heure, et évidemment tout seul et une fois par jour. Nos concitoyens sont frappés de voir des gens qui sortent sur un marché et qui se massent. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de fermer les marchés ouverts. Mais il sera permis aux préfets, sur avis des maires, de déroger à cette interdiction. Et puis, il faut aussi préciser les règles s'agissant de la santé. Il faut être clair, ce sont les soins urgents ou les soins qui répondent à une convocation d'un médecin ou, le cas échéant, évidemment, aller aux urgences de l'hôpital. Ces règles, elles sont strictes, elles vont continuer à être appliquées de façon stricte. Ce sont des règles, encore une fois, qui ont vocation à protéger nos concitoyens et singulièrement à protéger les plus fragiles de nos concitoyens.
Le Premier ministre qui précise qu'il faudra désormais dater et préciser l'horaire de sortie sur l'attestation de déplacement obligatoire quand vous vous déplacez. Sur la durée du confinement, Edouard Philippe répond encore plusieurs semaines. On attend dans la journée l'avis du Conseil scientifique. En tout cas, nous sommes désormais ce matin officiellement en état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois.
5 médecins au total sont décédés du virus contracté dans l'exercice de leurs fonctions. Après celui de l'Oise, 4 autres dans l'Est. Le coronavirus sera reconnu comme maladie professionnelle pour tous les soignants.
Des professionnels de santé en première ligne, vous le savez, le virus est tellement contagieux que pour les tester, leurs confrères biologistes leur demandent de rester dans leur voiture. Grâce à ces dépistages, ils constatent que les médecins, infirmières ou aides-soignants sont de plus en plus contaminés. Mathieu Bock.
Afin de prendre le moins de risques possible, les biologistes demandent aux patients de rester dans leur voiture sur le parking. Masque sur le nez, gants, lunettes, combinaison intégrale, ils se protègent du mieux qu'ils le peuvent, car de plus en plus de professionnels de santé qui viennent les voir sont eux-mêmes contaminés, explique le docteur Laurent Cabeillère, biologiste chez Biogroup, qui compte 600 laboratoires partout en France.
On a fait 1600 tests, on a commencé jeudi à les faire. On en a 29% de positifs, tout en sachant que c'est très variable. C'est-à-dire qu'en Alsace, ils sont positifs à 42%. Dans le sud, on est à 8% de positivité, c'est-à-dire que la vague n'est pas encore arrivée dans le sud. Ça ne va pas tarder. Sur Paris, ça monte en flèche, c'est exceptionnel. Hier, une de mes associées a fait 9 tests. Les 9 étaient positifs et c'était tous des professionnels de santé. On favorise les tests d'abord pour les professionnels de santé symptomatiques. Pas parce qu'on se garde les tests entre nous, c'est pour le retirer de la circulation, pour pas qu'ils contaminent tous ces patients.
Et devant l'ampleur du phénomène, le docteur Cabeillère craint que son stock de tests ne tienne pas 2 jours et il rappelle que ces tests se font sur ordonnance avec une prise de rendez-vous et qu'il ne faut surtout pas se présenter spontanément devant un laboratoire pour demander à se faire dépister.
Mathieu Bock, alors justement, si vous n'êtes pas prioritaire pour le dépistage, au moindre symptôme suspect, vous vous demandez sans doute si vous êtes atteint du Covid-19. Pour vous rassurer ou confirmer vos doutes, il existe un site internet simple et bien fait. C'est un questionnaire que nous résume Simon Rubin.
Avez-vous de la fièvre? Toussez-vous? Êtes-vous essoufflé au moindre petit effort? Voilà quelques-unes des questions que l'on retrouve sur le site maladiecoronavirus.fr, un questionnaire en ligne conçu par le docteur Fabrice Denis, oncologue au Mans, un outil qui permet de faire le point sur sa situation et parfois de découvrir des symptômes qu'on n'avait pas remarqués.
Comme ce sont des symptômes qui sont finalement assez courants, on peut ne pas se poser la question et traîner pendant plusieurs jours avec des symptômes qui vont se majorer en disant « oh bah c'est normal, c'est un virus ». Oui, sauf que si c'est le coronavirus, il est mieux de voir un médecin à ce moment-là. C'est un algorithme d'orientation des patients, mais pas du tout de diagnostic. Hein. Le diagnostic qui sera fait par le médecin, c'est vraiment quelque chose qui lève un drapeau. Attention, tiens, il faut s'y intéresser, avoir un avis médical.
Et pour adapter sa réponse, le site prend en compte votre âge, votre poids, vos antécédents médicaux. Le questionnaire est actualisé chaque jour et ajoute ou enlève des questions en fonction des symptômes les plus observés en consultation. Plus de 2 millions de personnes ont déjà répondu au questionnaire depuis son lancement jeudi dernier. Et parmi elles, 240 000 ont été invitées à appeler le 15 en raison d'une très forte suspicion de Covid-19.
Je vous rappelle le nom de ce site internet, maladiecoronavirus.fr.
6h06 sur Europe 1, la chloroquine. La chloroquine est-elle la solution miracle pour les malades? Vous vous posez la question, bien sûr, mais figurez-vous que la communauté scientifique elle-même est divisée. Hier, Le Haut Conseil de Santé Publique a estimé que ce médicament contre le paludisme ne pouvait être prescrit qu'à l'hôpital et dans les cas les plus graves.
Et il se trouve que la seule usine française habilitée officiellement à fabriquer la Nivaquine à base de chloroquine, cette usine est en redressement judiciaire. L'usine Famar, installée à Saint-Genis-Laval, près de Lyon, attend un repreneur depuis 9 mois. Sinon, elle devra fermer ses portes en juin. Un immense gâchis si aucune solution n'est trouvée. Reportage de Jean-Luc Bougeon.
Le dernier lot de Nivaquine antipaludéen à base de chloroquine a été fabriqué la semaine dernière à l'usine Famar. 200 000 boîtes de 20 comprimés envoyées hier au labo Sanofi qui commercialise le médicament. Mais ces boîtes seront peut-être les dernières à sortir des chaînes de fabrication car depuis un an, l'usine lyonnaise qui connaît des difficultés financières a été placée en redressement judiciaire. Son propriétaire, un groupe américain, veut la vendre, mais aucun repreneur ne s'est manifesté. Du coup, c'est toute une production particulièrement utile en ce moment qui pourrait disparaître. Un gâchis, selon Lorenzo Cirazzaro, le directeur du site.
Nous sommes prêts, nous, à répondre à une demande de production de médicaments à base de chloroquine. Le savoir-faire est présent, nos lignes de production tournent. Nous avons un personnel qui a démontré une attitude extraordinaire pour pouvoir assurer une livraison des médicaments auprès de nos patients.
Le délégué CGT, Yannick Donius, lance même un appel.
Un appel au pouvoir public. Je pense que l'État pourrait porter en fait l'acquéreur dans le cadre de la santé sanitaire de tout le monde ou alors faire en sorte qu'effectivement un projet de reprise puisse être enregistré.
L'usine Famar, c'est donc un médicament qui peut être très utile en ce moment. Accessoirement, c'est aussi 250 salariés et un savoir-faire basé en France. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe.
Vous l'avez peut-être constaté en faisant vos courses au supermarché. Après les rayons de pâtes, ceux des œufs sont pris d'assaut.
Un chiffre résume tout. Les commandes des grandes surfaces en œufs ont bondi de 60% ces deux dernières semaines. Maxime Chaumet est secrétaire général du Comité national pour la promotion de l'œuf.
On a eu des achats qui ont été très dynamiques depuis une dizaine de jours. Les Français qui vont acheter des œufs dans la distribution vont augmenter leurs achats de 15 à 20% par rapport à une période normale. Ce qui a conduit la distribution à augmenter ses commandes. Donc on a vu des commandes allant jusqu'à 60% supérieures à un temps normal au cours des jours précédents. Non, il n'y a pas de pénurie. C'est surtout un report des achats qui pouvaient se faire par le biais de la restauration, les cantines, qui vont se faire demain dans la grande distribution puisqu'on consomme en fait tout à domicile ou quasiment. L'œuf, c'est un produit d'une part de première nécessité. C'est la protéine aussi animale la moins chère sur le marché. Et c'est un produit qui peut se conserver. La date de consommation recommandée va jusqu'à 28 jours suivant la date de ponte. Donc les œufs peuvent être facilement conservés chez tout le monde en fait.
Pas de pénurie donc d'œufs. Des propos recueillis par Nicolas Feldman. Sachez qu'une prime pour les salariés de la grande distribution mobilisée dans les magasins et les entrepôts a été déjà décidée chez Auchan, maison mère de Castorama, Intermarché et Carrefour. Deux autres grandes enseignes vont en faire autant. Lidl et Leclerc, ils vont verser cette prime de 1000 euros. On l'apprend à l'instant en Chine, là où tout a commencé. Les restrictions de déplacement vont être levées à Wuhan et dans sa région. En Italie, pays le plus touché au monde par le coronavirus, un semblant d'éclaircie. Les nouveaux cas sont en baisse, ainsi que le nombre de décès, plus de 600 tout de même en 24 heures. Hier, les mesures de confinement ont encore été étendues avec l'arrêt de toutes les productions non essentielles.
En revanche, l'Espagne a vécu hier sa journée la plus noire depuis le début de la pandémie. Près de 500 morts supplémentaires, 2182 au total.
Illustration choc de cette situation épouvantable. Des cadavres de personnes âgées ont été retrouvés par l'armée dans des maisons de retraite. À Barcelone, Henri de la Guérie.
Depuis la mise en place de l'état d'urgence il y a 10 jours, l'armée espagnole s'est déployée dans tout le pays. Des soldats ont désinfecté l'aéroport de Bilbao et celui de Barcelone. D'autres ont monté un hôpital de campagne à Valence. Et puis, l'armée a inspecté des maisons de retraite. Leur situation est dramatique. Les soldats ont fait des découvertes macabres, comme l'a révélé hier Margarita Robles, ministre de la Défense.
L'armée a pu voir des personnes âgées absolument abandonnées, parfois même mortes dans leur lit. Nous serons implacables avec le traitement des anciens dans ces résidences.
L'Espagne a une semaine de retard sur l'Italie et à peu près 4 jours d'avance sur la France. Le pic des contagions n'est pas attendu ici avant la fin de la semaine. Face à l'explosion du nombre de décès à Madrid, les services funéraires sont débordés. La mairie est donc en train de transformer sa principale patinoire en morgue pour entreposer les corps des victimes. Le Palais des Glaces se situe à quelques centaines de mètres seulement du parc des expositions de Madrid, converti en hôpital de campagne. C'est dans ce même endroit qu'il y a moins de 4 mois seulement se tenait la COP25, la grande conférence pour le climat.
Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson décide finalement de décréter le confinement pour au moins 3 semaines, mesure annoncée hier soir après un week-end pendant lequel les parcs et les bords de mer ont été pris d'assaut par des milliers de personnes.
On va y revenir avec Johanna Chabas, notre correspondante à Londres, dans la revue de presse internationale. Ce sera à 6h50 tout à l'heure. En ces périodes troublées, on a souvent besoin d'un peu... un peu plus de spirituel. Pour les catholiques, la suspension des messes dominicales est une perte de repère, mais qui dit suspension ne dit pas suppression.
Oui, certaines paroisses diffusent en effet les célébrations sur les réseaux sociaux. La priorité des prêtres, c'est de maintenir un lien avec les fidèles lors d'Autriche.
C'est un peu l'église à la maison. Des centaines de messes en ligne, des messes parfois par téléphone pour ceux qui n'ont pas Internet. D'autres paroisses, comme Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Paris, maintiennent un lien visuel avec l'application Zoom qui permet à 100 personnes de se connecter en même temps pour chanter ensemble. Et pour le catéchisme, des cours sont souvent envoyés aux enfants. Dans le Val d'Oise, 3 prêtres confinés dans leur paroisse mettent en ligne chaque jour une méditation, un sketch pour la petite touche d'humour. Et le père Alexandre de Bussy enregistre tous les jours dans la chapelle une homélie avec l'espoir de toucher un large public.
Quand nous parlons devant la caméra, nous souhaitons vraiment rejoindre non seulement les chrétiens pratiquants, mais tous ceux au milieu desquels nous vivons et qui, je crois, attendent tous une parole qui puisse donner du sens à ce que nous vivons.
Plusieurs prêtres ont aujourd'hui le sentiment d'avoir un rôle encore plus important. Beaucoup de gens découvrent maintenant que des personnes de leur entourage sont malades du coronavirus et la figure du prêtre, m'a dit l'un d'entre eux, est essentielle pour les accompagner.
On va rester dans le virtuel, mais un peu moins spirituel, Mathieu, avec les jeux vidéo particulièrement plébiscités par les enfants et les ados en ces périodes de confinement.
Bonjour Mickaël Stora.
Oui, bonjour.
Merci de nous répondre en direct dans le journal de 6h d'Europe 1 ce matin. Vous êtes psychologue, psychanalyste, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Quant à la maison, Mickaël Stora, on a un ou une d'ailleurs, ado, qui ne débranche pas, qui profite du confinement pour rester scotché sur son PC ou sa console. Est-ce qu'on s'inquiète ou est-ce qu'on se dit c'est temporaire, c'est le confinement et c'est comme ça?
Oui, alors écoutez, moi j'ai envie d'être un petit peu plus... ouvert et tolérant concernant la pratique des jeux vidéo pendant cette période, puisque au fond, ce qui est important, c'est que le climat familial puisse être apaisé. Et j'ai presque envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que de profiter de ce moment-là pour partager les écrans. Je crois qu'avant le confinement, un des drames était que chacun était seul face à son écran. Donc là, c'est intéressant qu'on puisse partager, faire une partie de Mario Kart contre son fils, avec sa fille, regarder des vidéos de TikTok ou je ne sais quoi. En tout cas, prendre le temps justement de pouvoir discuter autour des jeux vidéo.
Oui, s'intéresser à leur univers de jeux et de réseaux. Il ne faudrait pas passer à côté de l'occasion de passer du temps avec nos enfants, quoi.
Oui, évidemment, je pense qu'il est possible. C'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. On regarde dans la même direction, on partage une émotion. Vous avez des jeux vidéo narratifs qui sont incroyablement bons. Et donc, pourquoi pas jouer ensemble? Les Anglais le font depuis plus de 10 ans.
Tout en fixant un cadre, Mickaël Stora, quand même.
Oui, mais le cadre, écoutez, évidemment que le cadre, il existe parce que déjà, normalement, les élèves se doivent, disons, les enfants font leurs devoirs, mais les parents parfois travaillent. Il y a des moments de récréation pour tout le monde. Mais je pense que, justement, oui, il est évident que ça peut être à nouveau un enjeu d'autorité, mais je crois que les parents sont déjà suffisamment épuisés pour qu'on arrête un peu de leur donner des formes d'injonction, oui, d'être des parents parfaits.
Et c'est d'autant plus important ce que vous dites, que vous prenez en charge les addictions aux jeux, notamment avec des cas de déscolarisation compliqués. Mickaël Stora, merci d'avoir, allez, au moins peut-être rassuré les parents qui nous écoutent ce matin. Psychologue, psychanalyste, Mickaël Stora, cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, en direct dans le journal de 6h d'Europe 1.
Les jeux toujours, mais olympiques, chaque jour. De nouvelles voix s'élèvent pour réclamer le report de ceux de Tokyo prévu cet été. Dernier en date, le comité olympique américain. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, ne souhaite pas vraiment envoyer des sportifs au Japon dans 4 mois. Le comité national olympique prendra position ce soir. Alors, qu'en pensent nos athlètes en pleine période de préparation? Cyril Delamorinerie leur a posé la question.
La plupart des athlètes français sont soulagés que le CIO envisage un report des Jeux Olympiques. De la handballeuse Alison Pinault, en passant par la lanceuse de disque Mélina Robert Michon ou encore le gymnaste Samir Aït Saïd. Bien sûr, reculer les Jeux en novembre est une possibilité, mais pour ce spécialiste des anneaux, la compétition devrait plutôt se dérouler en 2021.
Quitte à le reporter à l'été juillet 2021, ça restera les Jeux d'été, même si c'est décalé d'un an. J'ai hâte qu'il nous donne une date.
L'escrimeuse Isaora Tibus espère elle aussi des Jeux dans un an.
Ça ne me fait pas peur en tant qu'athlète de devoir remplir pour une autre saison et avec la même intensité qu'une saison olympique.
Mais l'escrimeuse Astrid Guyard, membre de la commission des athlètes, se veut avant tout philosophe.
De toute façon, aujourd'hui, la solution, il va falloir trouver la moins pire. Il n'y en a plus de bonne solution. Avec une préférence d'être sur une date au plus tôt, en garantissant des conditions sanitaires pour tous.
La commission des athlètes estime d'ailleurs que le CIO devrait se ranger derrière l'OMS, tout en espérant qu'un report en 2022 ne soit pas la solution envisagée, notamment en raison de sa proximité avec les Jeux de Paris 2024.
Et le Comité international olympique se donne un mois pour prendre sa décision.
Merci beaucoup Hélène Zellani. Je voudrais que voilà, on fasse tous un petit effort d'imagination. Pensez à cet ado qui, à 6h17 du matin, ne s'est toujours pas couché parce qu'il était sur sa console de jeu. Et à ce papa qui s'est levé tôt et qui est entré dans la pièce en disant « Bah tiens, je vais découvrir ton jeu vidéo ». Après ce qu'a dit Michael Stora, la rencontre ce matin au petit déjeuner peut être assez étonnante. Merci Hélène. De quoi est-ce qu'on occupe nos journées? On va beaucoup en parler dans cette matinale ce matin, mais j'attire votre attention. Et c'est beaucoup plus grave, sur le journal de 6h30, on va poser la question des médecins, des soignants qui sont particulièrement frappés par le coronavirus. En tout cas, ils sont en première ligne. C'est à la une à 6h30 avec François Geffrier tout à l'heure. Bon réveil à tous, il est 6h18. Alors on a tous vu des photos de cuisine, cuisinier, cuisinière, top chef à la maison, confiné. Tout le monde se met à la cuisine en ce moment, faut bien s'occuper, on en a beaucoup parlé. Tiens, certains se sont peut-être mis aussi à un ménage de printemps. Est-ce que ça vous a pris, tiens, pendant le confinement? Vous allez nous le dire ce matin au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte. Une consultante en rangement, Véronique Lebon, mon invitée dans un instant.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
6h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Vous le savez, tous les matins, un sujet de l'actualité, vous devinez lequel en ce moment, et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et pendant ce confinement, apparemment, tout le monde s'est mis au jogging. On va en parler avec Virginie Fulpin dans l'édito Radio Ouverte. C'est à partir de 7h20. Les réseaux sociaux qui bourgeonnent aussi de photos de cuisine. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes pris d'une fièvre de rangement, de ménage de printemps, bloqué chez nous en ce moment, que faire? Eh bien, pour ceux qui voudraient profiter de ce temps pour s'y mettre, on va vous venir en aide. Bonjour Véronique Lebon.
Oui, bonjour Mathieu et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes consultante en rangement et organisation, auteur du Cercle vertueux du tri, c'est paru chez Hachette Pratique, c'était en septembre 2019. Véronique Lebon, d'abord une question large, c'est le moment ou jamais pour s'y mettre?
Oh, je dirais que c'est le moment opportun, ça change les idées et puis ça permet de mettre le temps nécessaire à cette tâche-là dans le rangement de ses papiers.
Alors d'abord, la plupart des gens ne passent pas par un consultant pour le ménage, le rangement, le tri, peut-être le devrait-il. Mais votre activité, là, depuis le début du confinement, est-ce que vous êtes particulièrement sollicitée?
Alors, je suis particulièrement sollicitée, mais par le biais de séances à distance. Confinement oblige, je ne peux plus me déplacer chez les gens, donc du coup, on fait des séances par téléphone ou par webcam interposée.
Et qu'est-ce qu'on vous demande en premier lieu?
Alors, on demande déjà de savoir, d'avoir une méthode et de savoir comment faire pour ranger ses papiers. C'est plutôt simple de ranger ses papiers si on a la bonne méthode, en fait.
On va parler du rangement et du tri des papiers, mais alors c'est la paperasse hein, en premier, ce qui revient. Bon, Véronique Lebon, je suis chez moi. Un peu de télétravail pour certains, les enfants à la maison pour beaucoup. Je me dis que je vais mettre ce temps à profit. Je commence par où? Par les papiers, c'est ça?
Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment de commencer par les papiers parce que c'est le morceau le plus, je dirais, le plus gros, le plus important, celui qui prend le plus de temps finalement.
Ah bon?
Oui, les papiers, c'est vraiment très très long à ranger. Donc du coup, si vous avez vraiment fait vos papiers de A à Z, vous avez l'esprit tranquille pour ensuite ranger le reste.
D'accord. Non, et puis il faut dire que c'est vrai que les papiers, ça, pour le coup, ça ne prend pas énormément de place. Donc on peut en accumuler pendant des années avant de trier. Quoi.
Oh, détrompez-vous par rapport à la place. Non, ça peut prendre, je connais des maisons avec plusieurs tas de papiers qui prennent pas mal de place. En fait, c'est très insidieux, un papier à trier, c'est très très long. Et puis on ne se rend pas compte de l'encombrement
que ça représente,
ni dans la maison. ni dans notre tête, en fait.
Et il faut, le rappeler, on n'a pas besoin de tout garder hein, en termes de paperasse, hein, faut le rappeler.
Alors, mon conseil, c'est de tout jeter, sauf ce qu'il est obligatoire de garder.
Il faut entendre la phrase en entier, hein. Tout jeter, sauf ce qu'on doit garder.
Voilà, non, en fait, il faudrait jeter les choses qui ne sont plus utiles, tout simplement. Donc, quand on parle de jeter, c'est recycler ou détruire si ça a des données personnelles, si les papiers contiennent des données personnelles.
Bien sûr.
Dans ce cas-là, il vaut mieux détruire les papiers. Les autres, vous les placez au bac de recyclage. Et il y a un site du service public qui est très bien fait pour savoir les papiers que nous devons garder et surtout la durée de conservation de ces papiers.
Oui, selon qu'il s'agit d'un salaire, d'une quittance de loyer, d'un contrat de travail, d'une facture, etc. Finalement, vous avez soulevé le point essentiel parce que c'est valable pour les papiers, mais comme pour les vêtements ou de vieux objets qu'on garderait, finalement, le plus dur, c'est de jeter.
Alors, c'est très compliqué. On a très peur de jeter. On a peur de manquer, en fait. On se dit, et si j'en ai besoin plus tard, au cas où. C'est pas le cas pour les papiers, en fait. Hein. Les papiers, on a très peu de chances d'en manquer à un moment donné, sauf les fameux papiers obligatoires, les fiches de paye, etc. Donc, il faut le faire vraiment avec l'esprit tranquille, en sachant bien les dates butoirs. Pour la conservation de ces papiers. Et puis tout devrait bien se passer. Et ensuite, on les classe en trois grandes catégories. Les papiers qu'on doit garder vraiment très longtemps. Donc, c'est tout ce qui est propriété, famille, les fiches de paye, etc. Les papiers qui vont tourner fréquemment, comme les factures d'EDF, les factures d'eau, les décomptes de sécurité sociale, etc. Et ensuite, les papiers qui vont nécessiter une action plutôt rapide à court ou moyen terme.
Oui, c'est ce tas d'enveloppes là qu'on n'a pas encore ouvertes et qui sont dans l'entrée depuis un moment.
Exactement.
Je quitte les papiers, Véronique Lebon. Est-ce que la règle pour les vêtements, d'un vêtement qu'on n'a pas mis pendant un an, j'avais entendu, s'il y a un vêtement que vous n'avez pas mis pendant un an, c'est que vous pouvez le donner, le jeter, vous en séparer?
Alors, ça dépend du type de vêtement. Je dirais que si c'est un vêtement un petit peu particulier, un vêtement qu'on va porter pour les occasions spéciales, si ce vêtement-là nous plaît beaucoup, pourquoi le jeter? C'est dommage.
Bien sûr.
Par contre, on peut porter certains vêtements par habitude, et puis quand en réalité, ils ne nous conviennent pas. Donc, au moment du tri, ce qu'il faut faire, c'est être réellement sincère avec soi-même et se demander si ce vêtement correspond vraiment à notre mode de vie et à qui on est dans le fond.
D'une manière plus générale, Véronique Lebon, dans cette frénésie de rangement qui a saisi certains d'entre nous pendant le confinement,
oui.
Je me reconnais un petit peu, faut bien le dire. Est-ce qu'on peut passer un bon moment?
Alors, il faut que ce soit un bon moment. C'est-à-dire qu'il faut tourner la tâche à son avantage en se disant, en gardant bien en ligne de mire, qu'après, une fois que ce sera terminé, en fait, l'objectif est de créer son petit monde idéal. Donc, ça peut être quelque chose de sympathique, on retombe dans nos objets du passé, pas forcément du passé d'ailleurs, mais des objets qu'on peut avoir oubliés, se rendre compte soit qu'on doit leur faire une place plus importante chez nous, soit qu'il est temps de s'en séparer.
Véronique
mais
Lebon.
C'est un bon moment, quoi, là, qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive, Véronique Lebon, merci beaucoup hein, d'avoir éclairé nos auditeurs ce matin. On commence par la paperasse, hein, vous avez tous compris. On va voir, vous allez voir, hein, tout au long de la journée, on va voir des photos d'auditeurs qui trient leurs papiers sur le hashtag Radio Ouverte. Merci Véronique Lebon. Je rappelle le cercle vertueux du tri chez Hachette Pratique, paru au mois de septembre dernier. Véronique Lebon en direct ce matin pour ses conseils. Mon invité inattendu, merci beaucoup. Il est 6h27.
Mathieu Béliard.
Et d'ailleurs, vous le savez, vous pouvez réagir à tout moment dans cette matinale au 39-21. Il y a des choses très graves qui se passent et des questions techniques que vous vous posez, vous témoignez. Tiens, les questions de santé à 7h avec le docteur Jimmy Mohamed. Des choses plus légères, comme ce dont on vient de parler, le rangement. À partir de 8h30, j'attire votre attention, vous pourrez interpeller Axel Kahn, invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Il restera avec nous pour vous répondre. À 6h27, j'accueille Johan. Johan ou Johan d'ailleurs, bonjour.
Bonjour, c'est Johan.
Johan, vous êtes savoyard, vous êtes à Albertville, mon cher Johan.
Oui, et
vous
êtes à Albertville, oui.
Vous êtes livreur de presse, vous aviez un message à passer sur Europe 1, la radio ouverte.
Très bien, en fait, moi, donc, je suis livreur de presse, je travaille du lundi au dimanche, tous les jours. je livre mes clients de 4h du matin à 8h du matin. Et c'est mon seul revenu, donc je paye à la commission. Si je m'arrête de travailler, j'ai pas de salaire. Enfin, j'ai pas de revenu, quoi.
Ouais.
Donc j'ai un cas de conscience. J'ai 250 clients à livrer tous les jours. Mon employeur ne me fournit ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni gants. Donc je suis potentiellement contaminant pour un paquet de personnes, quoi.
Et vous vous dites que vous êtes en train de circuler de maison en maison, que vous n'êtes pas protégé, que vous êtes à la fois vous-même exposé et puis en même temps potentiellement contaminant, alors que vous bossez tôt le matin.
Carrément, ouais, c'est ça. Ouais.
Bon.
Et... Donc on compte le nombre de bottelettes que je touche tous les jours, donc 250 au minimum, le nombre de poignées de porte pour rentrer dans les bâtiments. Donc on peut ensuite au moins...
Et qu'est-ce qu'on vous dit du côté de votre employeur, pardonnez-moi Johan, qu'est-ce qu'on vous dit sur les masques, sur d'éventuels gants?
Bah pour l'instant, moi j'en ai parlé un petit peu à mon employeur de ça. Pour l'instant, il n'y a pas de solution, donc qu'est-ce qu'on fait?
Johan, vous allez rester à l'écoute à 6h40. On va poser ces questions justement d'organisation du travail avec l'association des DRH et avec le cabinet Technologia qui est dans la prévention des risques professionnels. Très important ce que vous nous dites, Johan, ce matin. Métier essentiel, hein, s'il en est, la livraison, le portage de presse le matin, quand tous les services postaux d'ailleurs ne fonctionnent pas idéalement. Merci Johan d'avoir eu le réflexe 3921. Le hashtag radio ouverte aussi pour nous écrire. Voyez, c'est simple, vous serez en direct avec nous et à l'antenne dans la matinale d'Europe 1. N'hésitez surtout pas, vous êtes ici chez vous, vous le savez désormais. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et avec le froid qui est toujours d'actualité, bien sûr, on en a parlé depuis déjà la semaine dernière, eh bien, il se confirme, il fait moins 4 dans la Nièvre en ce moment, moins 3 degrés à Mulhouse et à Langres, à Orléans, Besançon, Dijon, Reims, Nancy, Strasbourg, entre moins 1 et moins 2, autour de moins 1 à 0, en banlieue parisienne, 2 à Bourges, 3 à Paris, 4 à Lyon, 6 à Nantes, 5 à Brest, non 8 à Brest, 9 à Marseille et 10 degrés à Nice. Voilà pour les températures matinales, en sachant que globalement c'est une journée très ensoleillée sur la plupart de la France, un peu comme nous l'avons connu hier, avec quelques poches dans l'extrême sud qui sont des poches nuageuses et parfois pluvieuses. Il pleut un petit peu à Béziers par exemple, il a plu à Montélimar et Aubenas, et dans toutes ces régions prévoyez des nuages surtout plus que des pluies, et notamment sur les Cévennes et sur le piémont du Pyrénéen également. Sur la Provence, la Côte d'Azur, c'est du vent. Les températures maximales, elles restent quand même assez agréables entre guillemets, hein, bien que nous soyons confinés. 12 à Lille, 13 à Lyon et Paris, 14 à Caen, 15 à Bourges, 16 à Rennes et 18 à Brest.
Laurent Cabrol, merci beaucoup. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, un nouveau journal à 6h30.
Moi, je n'ai personnellement jamais vécu de perdre un collègue comme ça sur des crises aussi stressantes.
Les soignants sont-ils plus touchés que les autres? 5 d'entre eux sont morts du coronavirus. Ils sont plus en contact, bien sûr, et donc plus exposés au Covid-19. Les tests de coronavirus en drive à la façon des fast-food. La France va tenter de passer à la vitesse supérieure pour le dépistage du virus. L'un de nos journalistes va nous raconter son expérience. La France qui se prépare aussi au tri des patients comme l'Italie. Et puis tout de même, la vie un petit peu plus tranquille en ce moment près des couloirs aériens d'aéroports. Ce sera notre reportage à la fin du journal. Votre invité dans 10 minutes, Mathieu.
Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Jean-Claude Delgen également avec nous, président du cabinet Technologia. On va parler de ce bras de fer autour des congés payés, des RTT, du télétravail qui s'essouffle aussi par manque de travail. Vous l'entendrez, 6h31. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La métaphore de la guerre, largement utilisée pour évoquer la crise du coronavirus, est tragiquement illustrée par la mort en 72 heures de 5 combattants de première ligne, des médecins, dans le Haut-Rhin, la Haute-Saône et l'Oise.
Nous avons voulu savoir si les soignants étaient plus malades que le reste de la population. Ceux que Marion Gauthier a contactés pour Europe 1 vivent en tout cas cette situation avec une certaine anxiété.
Tous les jours, on a du personnel qu'on apprend, voilà, qui est positif, qui a été testé. On travaille avec un flot de patients qui est de plus en plus contaminé, et donc les chances de ne pas l'avoir sont très faibles.
Afif Ghassani raconte la tension qui monte dans son service de chirurgie et dans tout l'hôpital Émile Müller de Mulhouse, saturé.
Bien sûr, on a fait notre métier, on sait que c'est un métier à risque, mais moi je n'ai personnellement jamais vécu de perdre un collègue comme ça sur des crises aussi stressantes.
Il y a le stress de la maladie, mais aussi le stress d'abandonner ses collègues en cas de confinement. Des soignants d'autant plus exposés que l'hôpital n'accueille plus que les cas graves de Covid-19, explique François Bricaire, infectiologue et membre de l'Académie nationale de médecine.
Quand on est en plus éventuellement avec une forme plus sévère, le risque d'avoir davantage de virus, d'agents infectieux en général, est plus grande, et donc le risque de contaminer des personnels qui s'occupent de vous est grande.
En revanche, pour les soignants, comme pour le reste de la population, ce n'est pas le degré d'exposition au virus qui fait la gravité de la maladie, mais simplement la capacité de chaque organisme à résister.
Dernier bilan en France, 860 morts, 186 de plus en 24 heures seulement et 2000 patients en réanimation. Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce que 5000 tests sont pratiqués chaque jour.
Des tests vivement encouragés par l'Organisation mondiale de la santé et ce, à grande échelle, comme ça a été fait en Corée du Sud. Mais la France n'est pour l'instant pas équipée pour un déploiement plus massif. C'est en train de s'accélérer. D'ailleurs, les dépistages ont souvent lieu comme dans un drive de centre commercial, autrement dit, sans descendre de sa voiture. L'un de nos journalistes a subi un test la semaine dernière.
C'est vous, Adrien Beck, du service politique de la rédaction. C'était dans la région grenobloise. Dites-nous comment ça fonctionne.
Oui, alors tout se passe en fait sous une petite tente blanche dressée sur le parking du laboratoire. Vous arrivez, vous vous garez sous cette tente, interdiction de sortir de votre voiture. Là, trois soignantes masquées, gantées, vous vous contentez de baisser la vitre et on vous effectue un prélèvement dans chaque narine. Alors, c'est pas très agréable, mais ça prend franchement une trentaine de secondes et ensuite, vous repartez. En fait, tout est fait en amont, la prescription de votre médecin. Dans mon cas, c'est parce que j'avais des symptômes et qu'un de mes proches est une personne fragile. Ensuite, le laboratoire vous rappelle, toutes les formalités se font par téléphone, c'est très simple, très rapide, à l'exception du résultat, car le laboratoire croule sous les tests, 25 chaque jour, me disait-on. Ça fait maintenant 5 jours que j'ai été testé et je ne sais toujours pas si j'ai ou non le coronavirus, puisque j'aurai le résultat de mon test ce soir.
Merci Adrien Beck, bon courage bien sûr pour l'attente de ce résultat.
Il y a plusieurs semaines, nous parlions de l'Italie où les médecins étaient obligés de faire un tri entre les patients atteints du Covid-19, trop nombreux déjà à l'époque. Eh bien, cette situation qui pose de graves questions éthiques risque fort d'arriver en France. Le système de santé est proche de la saturation. Il est déjà débordé dans la région Grand Est.
Le Comité consultatif national d'éthique a donc recommandé la mise en place de cellules de soutien pour répondre aux questions des soignants. Elles se mettent progressivement en place dans les régions. Romain Oquet a interrogé pour Europe 1 des médecins en Normandie, qui se prépare à devoir choisir.
On va être obligé de faire un choix, puisqu'on n'a clairement pas assez de places disponibles pour tous les patients. Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, non.
Pour répondre, Arnaud de Pile-Duval, urgentiste à Paris, peut compter sur la cellule éthique de l'Île-de-France. Dans chaque région, des équipes de réanimateurs, infectiologues, psychologues, pour aider les médecins à prioriser leurs patients.
La crainte, c'est clairement de se retrouver avec deux patients qui sont tous les deux jeunes et insérés dans la société. Il est très facile de se dire qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix. Et là, c'est le risque de la survenue d'un stress post-traumatique pour les praticiens.
Avec l'épidémie, les critères d'admission en réanimation vont d'ailleurs se durcir, explique Grégoire Moutel. Le coordinateur de la cellule de Normandie est aussi sollicité par des médecins de ville en première ligne face aux familles.
On a un collègue qui nous dit « Moi, la décision, je la comprends, mais ma grande difficulté, c'est comment la faire accepter aux proches que je connais depuis 10 ans et qui pensaient que j'allais pouvoir faire adresser leur papa à l'hôpital. » Nous, on va être dans l'idée de ne pas laisser le professionnel seul se sentir soutenu.
Un comité aussi composé de juristes pour préciser le cadre légal, car les médecins le savent, ces choix, il faudra les assumer, y compris après la crise.
Des mesures encore plus strictes annoncées hier pour un confinement plus efficace. Édouard Philippe a précisé que ceux qui sortent de chez eux pour faire un peu d'exercice physique devaient désormais rester à moins d'un kilomètre de leur domicile et ce, pendant une heure maximum, une fois par jour.
Autre décision encore plus visible, la fermeture des marchés extérieurs, sauf dérogation pour les plus petites communes, celles où les marchés sont le seul moyen de s'approvisionner en denrées alimentaires. Une annonce difficile à encaisser pour le monde paysan, c'est la réaction de Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole.
C'est une décision très compliquée pour les agriculteurs parce que de plus en plus d'agriculteurs ont l'habitude de vendre sur les marchés. Donc nous allons faire en sorte que les mesures de sécurité puissent être totalement respectées, l'espacement entre les étals, la distance entre les personnes, pour que ces mesures soient respectées et que les préfets puissent délivrer la possibilité de réouvrir ces marchés le plus vite possible avec les normes de sécurité respectées. J'invite vraiment à respecter les gestes barrières, les distances, c'est une nécessité absolue. Il s'agit de la santé des gens, chacun doit être responsable. Mais bon, c'est dans la vie comme quand on est au marché, les règles sont les règles, il faut les respecter. Et nous allons faire en sorte qu'elles puissent être respectées par les clients des marchés pour que les marchés puissent réouvrir et qu'on puisse vendre sur les marchés.
Ferry pour Europe 1.
Et Christiane Lambert de la FNSEA. Et je vous le rappelle, à 7h40, je reçois le ministre du Logement pour parler justement d'une initiative de solidarité pour permettre de loger, d'héberger les personnels soignants mobilisés face à ce coronavirus. Il est ministre de la Ville et du Logement. Je lui dirai un mot de la fermeture de ces marchés à 7h40, Julien de Normandie, tout à l'heure. On entend régulièrement leur fatigue, leur colère face à des voisins un peu bruyants. Les riverains des aéroports qui vivent une période de rêve. Ils font partie des très rares Français en ce moment qui peuvent se réjouir du confinement. Le trafic aérien est en effet extrêmement faible.
Nous voilà donc ce matin en escale près de Roissy, une zone où, pour une fois, il fait bon vivre. Pierre Herbulot va nous le prouver.
C'est un geste anodin pour beaucoup.
Alors là, si vous voulez, je vais ouvrir la fenêtre, là devant vous, voilà. Eh bien, je n'entends absolument rien, sauf le bruit du vent.
Pas pour Denis, un habitant de Cormeilles en Parisie, juste sous l'un des deux couloirs aériens de Paris-Charles de Gaulle. Il n'a jamais connu autant de tranquillité chez lui.
Non, jamais. Absolument, c'est impossible. Nous sommes sous le doublé sud ici. Doublé sud, c'est 800 avions par jour. Donc vous pensez bien que cette situation est totalement inédite. Elle existait en 1974.
Date de l'inauguration de l'aéroport dont son association combat l'expansion.
Ce petit virus, bon, bien sûr, qui est dramatique, a arrêté instantanément l'aéroport et les vols de nuit, là où nous, depuis des années, des dizaines d'années, nous n'y arrivions pas.
Ce fond sonore a donc disparu. Les rares avions qui transitent encore passent de l'autre côté. Des dizaines de milliers de personnes découvrent depuis le bonheur d'une chaise de jardin. Claude et sa guitare en font partie.
Ah, jamais de ma vie j'aurais pensé pouvoir jouer dans mon jardin sans le passage d'un avion, en écoutant juste le bruit du vent. C'est formidable. Je suis très heureux.
Dans le quartier, on ne rêve que d'une chose, être confiné dans ces conditions le plus longtemps possible.
Et puisqu'on en est à la musique, revenons a cappella à ce qui est peut-être la chanson la plus connue dans le monde.
Oh.
Ça vous touche, hein ?
C'est la minute mignonne.
C'est un anniversaire surprise malgré le confinement. C'était hier à Bagneux, près de Paris. Un petit garçon a fêté ses 6 ans. Il découvre un petit mot à la craie sur les dalles de sa résidence et il voit tous les voisins sortir lui chanter joyeux anniversaire. La distance sanitaire est respectée. Il y a au moins 15 mètres. Donc Basile, joyeux anniversaire.
Ah bah oui, joyeux anniversaire à lui. Et puis bravo aux parents aussi. Parce qu'il faut être ingénieux en ce moment pour continuer à célébrer les anniversaires alors qu'on est confiné et qu'on ne peut pas recevoir tous les copains. Bravo et j'attire votre attention sur ce rendez-vous. Alors je sais qu'on est mardi, ça va paraître bizarre, mais de 9h à 9h30, les petites voix, le confinement vécu par les enfants du monde entier, c'est sur Europe 1 désormais. Merci François Geffrier. C'était le journal de 6h30 à 7h avec Marguerite Lefebvre. Nous reviendrons sur cette annonce qui nous a glacé le sang hier soir. 20 morts dans un EHPAD des Vosges, 4 contaminés par le coronavirus. Et nous parlions des EHPAD précisément à la même heure hier. Romain Gisolme de l'ADEPA était avec nous, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Eh bien on l'a rappelé parce qu'il y a des questions que vous vous posez sur l'hygiène, sur le soin, sur l'isolement de nos aînés. Vous allez poser vos questions à Romain Gisolme entre 9h et 9h30. Il sera là pour vous. 3921 et le hashtag Radio Ouverte. N'hésitez pas, nous sommes mobilisés, mobilisés et à vos côtés. Il est 6h40.
Béliard.
Ne manquez pas le rendez-vous, ce sera fort. 8h15, Axel Kahn, le généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer, essayiste, humaniste. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Et dans la foulée, il répondra à vos questions, à vous en direct, lui aussi. Le hashtag Radio Ouverte, même chemin, le 3921. N'hésitez surtout pas, tout au long de la matinale, vous témoignez avec ce numéro, le 3921, pour être en direct avec nous. Pour l'heure, deux invités. Benoît Serre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Je me tourne également vers Jean-Claude Delgen. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Claude Delgen, président du cabinet Technologia. C'est un cabinet de prévention des risques professionnels. Plusieurs questions pour vous, messieurs. Merci d'avoir répondu présent. Jean-Claude Delgen, vous venez de lancer une application Nos droits du côté du cabinet Technologia. Un exercice de questions-réponses sur le code du travail. Est-ce à dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de flou, beaucoup de questions qui se posent ?
Écoutez, les gens sont à la recherche actuellement de bon nombre de réponses aux questions qu'ils se posent, puisque on a basculé dans un univers qui est en fait assez mal connu, avec bon nombre de dispositions qui sont extra-réglementaires ou qui ne le sont tout au moins pas encore, disons pas encore réglementées. Donc, nous avons lancé Nos droits, c'est l'accès au code du travail avec près de 2000 questions que l'on peut télécharger, donc soit sur Google, soit sur Apple Store, 2000 questions sur le code du travail que l'on peut aller chercher gracieusement pour vraiment se tenir informé.
Et Benoît Serre, justement, du côté des DRH, il y a des dispositions qui sont réglementaires, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui le seront bientôt. Et vous, vous êtes en première ligne, congé, télétravail, chômage partiel. Vous protestez en quelque sorte parce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui reposent sur vous.
Bah, en fait, c'est pas tellement qu'on proteste parce qu'on comprend le caractère exceptionnel de la situation, mais il demeure que effectivement ces choses-là sont précises et que un peu comme pour le chômage partiel, on va dire que la doctrine du ministère change. Dans le chômage partiel, certains étaient acceptés au début, maintenant d'autres sont refusés pour d'autres raisons. J'ai eu l'exemple d'une petite entreprise récemment du côté de Poitiers qui s'est vue refuser le chômage partiel, lui demandant de mettre en place des mesures pour continuer le travail, sauf qu'elle est incapable de les mettre en place. Pareil pour les congés. On a vu qu'il faut un accord d'entreprise, de ce qu'on a compris, pour pouvoir imposer 6 jours de congés ouvables. On attend avec intérêt les ordonnances qui devraient sortir mercredi. Mais nous, on dit, attention, les décisions qu'on prend, nous les DRH dans les entreprises, c'est toutes les heures. On ne peut pas attendre comme ça 48 heures, oui. 72 heures avant d'avoir une vue claire parce que nos salariés nous demandent.
Alors on va prendre point par point, on l'a déjà évoqué, Jean-Claude Delgen, ouais, du cabinet, ouais. Technologia, pour télétravailler en ce moment. C'est bête hein, comme remarque, mais encore faut-il qu'il y ait du travail.
Absolument, il y a la question du travail qui doit pouvoir être traité à distance, parce que on a basculé, si vous voulez, dans ce monde inconnu d'une manière rapide, sans préparation. Il y a un grand nombre de salariés qui ont été amenés à utiliser cette méthode de travail sans y être préparés, puisque la France avait un peu de retard par rapport à ses voisins en matière de télétravail. Deuxième aspect, les conditions matérielles ne sont pas toujours réunies pour télétravailler. Quand vous êtes dans une famille où les deux sont confinés, où il y a les enfants et où il existe un seul ordinateur, c'est compliqué, ça génère des tensions. Donc, et de plus, c'est vrai qu'il faut que l'activité se maintienne. Or, on voit bien que l'activité partout s'écroule et qu'il n'est pas simple de donner de l'activité à des gens en télétravail, à distance, lorsque celle-ci se rétracte.
Benoît Serre, la question du télétravail, on a vu que toutes les entreprises ne sont pas égales. Est-ce que c'est un point de tension chez vous ?
Non, c'est pas un point de tension, c'est pas ce qu'on observe. Comme dit Monsieur Delgen, le sujet, ça a été son organisation, à la fois parce que quelquefois le travail ne permet pas le télétravail, donc j'en entends beaucoup parler, mais vous avez des tas de salariés qui ne peuvent pas télétravailler, tout simplement parce que leur activité ne le permet pas. Et puis en revanche, il a fallu réorganiser. Vous savez, c'est des choses aussi bêtes que, est-ce que les gens ont un ordinateur portable ?
Bien sûr.
Comment ils se connectent au réseau de l'entreprise ? Est-ce que le réseau va tenir ? Donc le télétravail s'est installé de plus en plus. Je pense qu'on ne reviendra plus en arrière, c'est-à-dire que le télétravail va connaître un déploiement de plus en plus fort.
Et donc
viennent,
un accélérateur,
mais c'est vrai que c'est une adaptation.
Situation.
Et ça, c'est assez certain.
Oui, aujourd'hui, il y a un point de tension, en revanche, Benoît Serre, c'est la question des congés. Alors, c'est un point de tension et un point d'interrogation à la fois. Il y a ces congés qui étaient éventuellement posés pour le mois d'avril, ceux qu'on voudrait annuler, d'autres qu'on voudrait imposer. Et on l'a bien compris, la parole est au manager sur ces questions, la hiérarchie à la main. Comment est-ce que ça passe auprès des collaborateurs ?
Alors la hiérarchie, elle a partiellement la main. Sur les jours de congé, vous avez raison, puisque le Parlement a décidé qu'on pouvait imposer ou modifier sans prévenance. Vous savez, il vous faut 4 semaines pour prévenir vos salariés que vous modifiez les dates ou vous les annulez. On pourra le faire sans prévenance de 6 jours ouvrables, sous réserve d'avoir un accord d'entreprise. Ça, c'est une autre question. C'est comment on va le négocier, à quelle vitesse. Parce qu'encore une fois, c'est une affaire de jours, d'heures, cette histoire.
Et puis certains, si on prend, je vais essayer d'être le plus clair possible pour nos auditeurs. Pour certains, il vaut mieux être en congé, qui sont payés à 100%, qu'au chômage partiel, qui lui est indemnisé
exactement.
À 84%.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent, mais moi je veux poser mes congés, parce que comme ça je suis payé à 100% plutôt qu'être en chômage partiel. D'ailleurs, il faudra répondre à la question, est-ce que les gens aujourd'hui en chômage partiel pourront demain sortir du chômage partiel pour passer en régime de congé, pour revenir en chômage partiel ? Vous voyez, c'est vraiment des détails dont on attend rapidement les instructions du ministère du Travail, et quand on entend qu'on aura les instructions que jeudi ou vendredi, pour certaines petites entreprises ou même des grandes, c'est vraiment loin, quoi.
Jean-Claude Delgen.
Oui.
J'ai cru que vous vouliez intervenir, pardonnez-moi.
Oui, sur la question du chômage partiel, il est très important de voir les conditions qui sont mises par le ministère du Travail actuellement pour en bénéficier. En particulier, il est demandé aux chefs d'entreprise et aux salariés de suivre, pour entretenir, si vous voulez, en fait, les compétences des programmes, y compris de formation. Donc, c'est un des points qui va être, je dirais, examiné pour octroyer ou pas le chômage partiel aux entreprises. Donc, c'est assez intéressant de peut-être de bénéficier de ces moments un peu compliqués, hein, c'est vrai, mais peut-être pour se former, pour entretenir ses compétences, pour faire des bilans de compétences, etc., pour reprendre l'activité lorsqu'on sortira de cette crise, au mieux, sans y avoir laissé trop de choses.
Justement, j'en profite, Jean-Claude Delgen, Benoît Serre, vous avez des demandes de formation en particulier en ce moment, puisqu'on a peut-être un peu de temps ?
Très honnêtement, assez peu. Très honnêtement, assez peu. Vous savez, les gens sont concentrés d'abord sur leur vie quotidienne, parce que c'est pas facile d'être confiné quand on a des petits-enfants, etc. Et d'autre chose, dans les petites entreprises comme dans les grandes, d'ailleurs, les gens sont plutôt inquiets de savoir quand ça va redémarrer, parce que faut bien comprendre que vous avez des petites entreprises, des moyennes entreprises et des salariés qui sont inquiets de la sortie déjà. Et qui disent, mais comment ça va se passer? Quand on va s'en sortir? Alors, M. Delgen a raison, on peut accéder à la formation, ça arrive, mais vous dire que c'est généralisé, ce serait excessif.
Bien sûr, Jean-Claude Delgen.
Ce que je dis, c'est que c'est une des conditions pour retenir, en fait, les dossiers, y compris par le ministère du Travail, en matière de chômage partiel. Oui. Après, si vous voulez, c'est vrai qu'actuellement, les gens sont dans une situation un peu de sidération, et c'est pas facile de... Mais bon...
Ah bah, ils n'y pensent pas forcément, mais c'est aussi pour ça que vous êtes là. Comme ça, certains auront peut-être l'idée ce matin. Parce que... Oui, pardon, Benoît Serre.
Non, sur le chômage partiel, je partage ce que dit M. Delgen. Je dis simplement que le sujet du jour, c'est que les dossiers justement qu'on dépose à la direction du travail pour obtenir le chômage partiel sont assez complexes, puisqu'en fait on vous dit que quelquefois vous pouvez continuer, par exemple dans le BTP, sous réserve que vous mettiez en place des mesures de sécurité et mesures barrières qui pour des petites entreprises sont impossibles à mettre en œuvre. Donc c'est un peu la quadrature du cercle quand même. Et ça c'est une vraie difficulté.
Messieurs, un grand merci à vous deux, Jean-Claude Delgen du cabinet Technologia. Je rappelle que votre mission c'est la prévention des risques professionnels et que vous attirez aussi l'attention dans ce contexte sur le cloisonnement entre vie privée, vie familiale, l'instruction des enfants, tout ça, ça se mélange, ça fait de grosses journées.
Le sport aussi, pour ne pas avoir de conséquences sur le plan physique, sur un confinement trop long. Hein. C'est important de faire un peu de sport, pas trop, mais un peu.
Un peu d'activité pour se défouler aussi. Jean-Claude Delgen du cabinet Technologia et Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, au service de nos auditeurs ce matin en direct sur Europe 1. Merci messieurs, merci beaucoup. Il est 6h49.
Europe 1.
La revue de presse internationale à suivre avec le Brésil, l'Angleterre et l'Allemagne. Bon réveil à toutes et à tous. Il est 6h50 sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons retrouver notre réseau de correspondants, je le disais, avec Marie Nodacher qui est au Brésil pour Europe 1. Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle au Brésil ?
À la une de la Folha de São Paulo, cette mesure provisoire proposée par Jair Bolsonaro. Tenez-vous bien, les entreprises pourront suspendre pendant 4 mois, durée de la calamité sanitaire, tous les salaires, un cas de force majeure avancé par le gouvernement qui provoque déjà l'inquiétude et la révolte au Brésil. Leonardo Sakamoto, journaliste spécialiste du droit du travail, dénonce déjà un Robin des Bois à l'envers qui favorise les riches aux dépens des plus fragiles. Bolsonaro les incite à faire des cours en ligne, mais comment arriveront-ils à payer leurs factures Internet, dénonce ce journaliste dans les colonnes de la Folia. Corona sceptique, Bolsonaro a d'abord nié la gravité de cette pandémie, simple grippe selon lui, et il est aujourd'hui la cible de plusieurs demandes d'impeachment pour mise en danger de la vie d'autrui. Depuis plusieurs jours, des concerts de casseroles se font entendre dans les grandes villes du Brésil. Une partie des Brésiliens crie « Fora Bolsonaro, dégage Bolsonaro ».
Marie Nodacher au Brésil. Johanna Chabas est à Londres. Bonjour Johanna.
Bonjour Mathieu.
Un homme à la une chez vous.
À la une partout ce matin, un visage, celui de Boris Johnson, et un titre, Restez à la maison. Hier soir, le Premier ministre britannique s'est adressé à la nation pour décréter le confinement du pays à cause du coronavirus. Après des semaines de réticence à copier les mesures drastiques des Européens, écrit The Guardian, Bojo se résout à des sanctions pour forcer les Britanniques à ne plus sortir. Le gouvernement ferme les commerces non essentiels, interdit les rassemblements de plus de 2 personnes, les mariages, les baptêmes. Les policiers peuvent mettre des amendes de 30 à 1000 livres selon The Times. La fin de la liberté pour le Daily Telegraph. Boris Johnson le promet, il fera un point dans 3 semaines pour décider de prolonger ou non le confinement. Mais pour le magazine The Spectator, il est peu probable qu'il soit levé de sitôt.
Johanna Chabas à Londres pour Europe 1 et je vous propose d'écouter justement le Premier ministre britannique.
Aucun Premier ministre ne veut mettre en place de telles mesures. Si vous ne respectez pas les règles, la police pourra vous donner des amendes. Nous allons tout de suite fermer les magasins qui ne vendent pas des denrées essentielles. Nous allons interdire les rassemblements de plus de 2 personnes de familles différentes. Nous allons arrêter les événements comme les mariages, les baptêmes, à l'exception des enterrements. Dans cette bataille, il ne fait aucun doute que chacun d'entre nous est directement enrôlé. Comme ils l'ont fait par le passé, les Britanniques seront à la hauteur du défi. Je vous exhorte de rester chez vous, protégez le service de santé, sauvez des vies.
Boris Johnson sur Europe 1. Voilà pour l'Angleterre, nous partons pour l'Allemagne à présent avec Hélène Kohl. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle chez vous ?
Cette initiative du petit monde des cracks en informatique face à l'épidémie. Ce week-end, 43 000 codeurs allemands ont participé à ce qu'on appelle un hackathon. C'est un concours de création de logiciels et d'applications. Ils avaient 48 heures pour proposer des solutions informatiques à cette crise sanitaire et au défi du confinement. Ils ont hacké le virus, résume la radio publique SVR. Tous ensemble, les codeurs ont ainsi développé 1500 projets. Le Spiegel nous en présente quelques-uns, comme cette appli qui dit s'il y a de l'attente devant le supermarché, ou bien ce traceur d'infection qui répertorie tous vos déplacements des derniers jours. Il y a aussi des modes d'emploi pour faire des masques avec une imprimante 3D ou des simulateurs pour que les hôpitaux de province testent leur capacité de résistance à l'avancée de la maladie. Un système d'ailleurs que le gouvernement allemand a récupéré illico et qui sera opérationnel d'ici 4 jours.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1, l'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil. C'était la revue de presse internationale comme tous les matins à 6h50.
Matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Tout au long de la matinée, vous intervenez au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte. Et Corinne est en ligne avec nous ce matin. Bonjour Corinne.
Bonjour Mathieu.
Merci d'avoir eu le réflexe 3921. Vous nous appelez d'où Corinne ?
Je m'appelle de Bourg-la-Reine, dans les Hauts-de-Seine.
Et vous pensez avoir des symptômes du virus ?
Bah, a priori oui, j'ai téléphoné au 0800 130 000.
Le numéro vert.
J'ai le numéro vert, tout à fait, et j'ai à peu près le profil. Donc j'ai téléphoné au 15 ensuite. Ils m'ont demandé de téléphoner au 15, sauf ce que j'ai fait. Le problème est que je n'ai pas de carte bleue. Enfin si, c'est une électron, mais comme j'ai rien sur mon compte, donc ça va vite. Je peux payer uniquement par carte vitale, parce que je suis handicapée en invalidité.
D'accord.
Et le médecin que j'ai reçu en ligne n'a pas voulu passer mon appel. Je suis à la maison.
D'accord. C'est presque une question technico-administrative, Corinne, que vous posez finalement sur l'emploi de la carte vitale et du coup l'isolement dans lequel vous vous retrouvez imposé, isolement imposé pour Corinne face à ses symptômes. Vous savez ce que je vais faire, Corinne ? Parce que moi, je n'ai pas la réponse à votre question. On va être très clair. Je la poserai au docteur Jimmy Mohamed. Il est là tous les matins, juste après le journal de 7h, pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et Corinne, vous restez bien à l'écoute après le journal de 7h, Jimmy Mohamed, et votre question précise. Corinne, depuis Bourg-la-Reine, ce matin, au 39-21. Merci de nous avoir appelé, Corinne, et d'avoir eu ce réflexe. Je le disais, le monde se confine, le monde se referme, et votre radio reste ouverte. On s'adapte, comme le font les Français, avec une matinale exceptionnelle, encore une fois en télétravail, je le souligne, je suis chez moi, dans mon garage, pour présenter la matinale d'Europe 1, pour vous notamment, Corinne, merci beaucoup de votre appel, 6h56.
Europe 1.
Avant de retrouver Jimmy Mohamed, le journal de 7h, bien sûr, la météo, Laurent Cabrol, Mathieu Noël qui va s'installer en studio, c'est une phrase réflexe, excusez-moi, Mathieu Noël qui est chez lui, justement lui aussi, à tout de suite.
Mathieu Béliard.
Et Mathieu Noël qui est en direct avec nous comme tous les matins avant le journal de 7h. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu. Cet après-midi, je ne vous redonne pas le code. Je vous attends à la maison, comme d'habitude, pour une équipée sauvage en duplex de mon salon et avec les meilleurs journalistes d'Europe 1 en duplex de chez eux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, selon les psychologues, le 10e jour du confinement serait le plus dur. Alors là, on en est au 8e et c'est déjà assez coton comme ça, notamment pour occuper les enfants. Là, on est déjà à court d'idées. Comme en témoigne ce cri du cœur vendredi de Virginie Fulpin. Notre éditorialiste sport qu'on a senti à bout.
Tiens, vous avez, Virginie, prévu des choses pour occuper enfants ce week-end pendant le confinement ?
Je crois que ce matin, il va y avoir de la pâte à sel.
Je crois qu'il va y avoir de la pâte à sel, phrase d'une tristesse abyssale et qui résume bien le désarroi de beaucoup de parents qui nous écoutent et qui n'en peuvent plus. Entre le petit qui veut que vous lui chantiez pirouette cacahuète 10 fois de suite.
Sa maison est dans le carton, pirouette cacahuète.
Sa grande sœur qui veut que vous lui chantiez la reine des neiges 2.
Je te cherche,
je te cherche.
Le grand qui vous annonce qu'il est gay.
Ah bon ?
Sans oublier le papy qui veut absolument faire un FaceTime avec les enfants pour leur montrer son chat.
Je suis avec Gribouille. Eh ouais, Gribouille, viens Gribouille, viens dire bonjour.
Les journées sont très longues en confinement, alors raccourcissez-les en écoutant l'équipée sauvage, 2 heures d'infos, de bonne humeur et surtout d'idées pour optimiser votre confinement. À tout à l'heure, Mathieu.
À tout à l'heure, Mathieu Noël, 16h-18h. Oui, oh là là, j'entends Laurent Cabrol qu'on va retrouver dans un instant. Évidemment, évidemment, alors Europe 1, la matinale est bousculée depuis une semaine. Je suis ravi de vous voir que vous trouvez quand même la matière, mon cher Mathieu Noël, depuis chez vous, pour nous taquiner de bon matin juste avant le journal de 7h. 16h-18h, l'équipée sauvage, évidemment. La demi-heure qui va démarrer. 7h15, l'innovation Anis Mbida, des robots de nettoyage à la lumière. Plus besoin de mettre les mains. On écoutera ça attentivement. Le monde bouge, Axel de Tarlé, avec une ruée vers les pièces d'or. C'est à 7h20 avec l'édito confiné de Virginie Fulpin, l'édito confiné de la radio ouverte. On va parler de l'humour des community managers sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en charge des réseaux. Sur le hashtag radio ouverte, on a remarqué qu'il n'y avait jamais eu autant de joggeurs en France, Virginie Fulpin, tout à l'heure. Mais pour l'heure, il est là avec Gribouille. En Cabrol pour la météo.
Et Mathieu Noël, c'est ce qu'il te dit le papy. Bon, alors, aujourd'hui le ciel bleu va accompagner notre confinement et seule la froidure du matin nous consolera de cet enfermement puisque nous avons moins 4 degrés à Nevers en ce moment, moins 3 à Mulhouse, moins 2 à Besançon, Dijon et Reims, moins 1 à Nancy et Strasbourg, 0 en banlieue parisienne en ce moment, 2 à Caen et Bourges, 3 à Paris, 4 à Rennes, 6 à Nantes, 8 à Brest. Une petite consolation, le vent est moins soutenu qu'hier et donc le froid sera plus supportable lorsque vous aurez la chance de sortir de la maison. Pour ce qui est de la couleur du ciel, c'est le bleu qui va l'emporter quasiment partout, hein, excepté dans l'extrême sud. Je détaillerai tout à l'heure les régions, mais enfin c'est surtout la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Piémont pyrénéen ainsi que Languedoc-Roussillon. Quant aux températures maximales, sans grand changement, 11 à Dijon, 12 à Lille cet après-midi, 13 à Lyon et Paris, Grenoble, Caen, Bourges, Clermont-Ferrand et Poitiers entre 14 et 15, 16 à Rennes, 17 à Toulouse et 18 à Limoges.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol.